Bonjour Mélanie, donc ce mois-ci nous avons choisi de parler des véhicules d'entreprise.
Bonjour Jean-Marc, je vais essayer de vous éclairer sur les différentes possibilités fiscales pour le chef d'entreprise et ses véhicules.
Une entreprise n'a pas le même besoin selon que ce soit une entreprise de service tertiaire ou un artisan. La première question va être sur l'utilité des véhicules.
Effectivement, les artisans vont souvent avoir besoin d'un véhicule utilitaire, ce que les professions libérales ne nécessiteront pas. Les véhicules utilitaires sont assez simples d'un point de vue fiscal, c'est-à-dire que tous les frais s'y rattachant seront déductibles puisqu'ils sont directement rattachés aux besoins de l'entreprise. Pour les véhicules particuliers, comme ils sont utilisés aussi dans la vie courante, les impôts ont fixé un certain nombre de limites.
Sur l'aspect achat ou location ou passer en frais kilométriques, que pouvez-vous nous dire?
Alors, il y a deux solutions qui s'offrent aux professionnels, soit avoir un véhicule dans son patrimoine privé et constituer des indemnités kilométriques. À ce moment-là, la seule contrainte est de lister le nombre de kilomètres faits dans le courant de l'année et d'appliquer le barème fiscal. Le chef d'entreprise assume tous les frais des véhicules, les frais d'entretien, les frais d'assurance et les frais de financement du véhicule. Et le barème kilométrique, qui peut être intéressant si on fait un certain nombre de kilomètres dans l'année. Ça a l'avantage d'être très simple.
Si on se place dans la situation d'une location, où par exemple, de plus en plus, on va louer un véhicule avec l'entretien inclus.
Donc, dans le cas d'une location prise en charge par l'entreprise, le loyer va être déductible dans la limite d'un plafond qui dépend de la valeur d'origine du véhicule. Donc, selon que le véhicule est très polluant ou assez peu polluant, le plafond va être fixé à 9 900 € ou 18 300 €. C'est ce plafond de déduction qui est identique en cas de financement classique. Le gros avantage du leasing, c'est que l'entretien est compris et c'est que généralement, c'est assez simple pour l'entrepreneur d'avoir un contrat avec le garage.
Qu'est-ce qui est donc déductible lorsque le véhicule appartient à l'entreprise ?
On peut déjà déduire les frais de propriété, c'est-à-dire la valeur du véhicule dans la limite de ses plafonds qui dépendent du taux d'émission de CO2, 9 900 € ou 18 300 € selon qu'elle est plus ou moins polluante. On peut également déduire les frais de financement, donc soit la part de financement sur les contrats de leasing, soit la part d'intérêt sur les emprunts. On peut également déduire tous les frais d'entretien du véhicule, c'est-à-dire l'assurance, le changement des pneumatiques, les révisions, les vidanges, les pare-brises et tout ce qui peut s'ensuivre sur un véhicule.
Est-ce que les règles appliquées seront les mêmes pour une petite voiture ou un plus gros véhicule ?
Alors, la règle est la même, simplement, l'entretien et l'assurance étant plus chers sur un gros véhicule, la solution de l'usage professionnel pour un gros véhicule va être peut-être plus intéressant que sur un petit véhicule. Alors que le barème fiscal dépend uniquement des chevaux fiscaux et il n'y a pas forcément un gros écart entre un 5 chevaux fiscaux et un 7 chevaux fiscaux, puisqu'aujourd'hui le barème est plafonné à 7 chevaux fiscaux. Pour revenir sur les véhicules professionnels, il ne faut pas oublier quand même que le véhicule étant utilisé à usage personnel également, on sera obligé de réintégrer chaque année dans les résultats de l'entreprise une quote-part pour usage personnel qui est généralement appliquée de 2/7 des dépenses de l'année.
On peut en conclure qu'il n'y a pas de solution idéale pour la gestion des véhicules de l'entreprise. Ça va être du cas par cas et il faut presque se rapprocher de son comptable, évidemment.
Effectivement, ce serait trop simple que la solution soit adaptée à tout le monde. Ça va vraiment dépendre du cas par cas, de l'activité, de l'entrepreneur, du véhicule, des modalités de financement. Et ça me semble indispensable de consulter son expert comptable systématiquement.
Sur ce point, on a été assez complet. Sur les échéances du mois de décembre, on arrive sur la fin d'année, est-ce qu'il y a des choses particulières ?
Alors, effectivement, il y aura à payer au 15 décembre la CFE qui est obligatoirement payable par télédéclaration ou par virement ou par prélèvement automatique. Les contribuables aujourd'hui ne reçoivent plus d'imprimés, donc il faut penser à les télérégler sur le site des impôts.
En quelques mots, qu'est-ce que la CFE ? Parce que tous les entrepreneurs connaissaient la taxe professionnelle, elle a, il y a quelques années, été remplacée par la CFE. En quelques mots, expliquez-nous ce que ça signifie.
Alors la CFE, c'est littéralement la cotisation foncière des entreprises. Les entreprises qui avaient de lourds investissements payaient une taxe professionnelle très importante et cela bloquait un petit peu le développement des activités, donc les impôts ont remis tout ça à plat. Aujourd'hui, cette imposition est en deux parts, la part foncière qui est la CFE payable au 15 décembre et la part créée sur la basée sur la richesse créée qui s'appelle la CVAE et qui ne touche que les sociétés qui ont un chiffre d'affaires de plus de 500 000 euros et qui est basée sur la valeur ajoutée, donc la richesse créée. Donc pour la CFE, c'est vraiment une part foncière qui dépend du taux appliqué par la communauté dans laquelle on est installé et de la superficie des locaux et également du chiffre d'affaires puisque les taux sont indexés sur le chiffre.
Je pense que ça va éclairer un certain nombre d'entrepreneurs et d'entreprises. Mélanie, je vous remercie. On se retrouve le mois prochain.
À très bientôt.